Bon, bonjour, bienvenue à tous. Donc, on continue dans notre cycle conférences communes entre le GANIL et l'UFR des sciences. Et donc, notre dernière conférence était sur le. C'était un sujet très différent, hein, puisque c'était donc le télescope spatial. Là, cette fois-ci, on va se rapprocher de la Terre grâce à une conférencière très célèbre, qui est Julie Dehaye, qui est directrice de recherche au CNRS, qui est océanographe, ancienne élève de classe prépa à Malherbe. Ancienne élève de l'École nationale supérieure des techniques avancées, qui a fait donc son doctorat en océanographie, qui a été chargée de cours à l'ENS en modélisation donc, mathématique, et qui a fait aussi un postdoc à Woods Hole Institute, et donc qui travaille actuellement sur la partie océanique du modèle de climatique de l'IPSL, et donc qui va nous faire une super conférence, hein, sur la circulation méridionale de retournement de l'Atlantique. Et je la remercie au nom de l'UFR des sciences et du GANIL.
Merci. Voilà. Merci pour cette super biographie. Je la retiendrai. merci à tous d'être là. Pour venir m'écouter, j'espère que je vais réussir à vous intéresser dans cette heure après le déjeuner. Surtout, je m'excuse pour le titre qui n'est pas très vendeur. C'est en fait un titre qui vient d'une conférence que j'ai donnée à l'Institut de la Marine. Et donc, il fallait que ce soit un peu plombant, un peu ronflant. Mais je pense que vous avez vu les petits mots qui tournent beaucoup dans les médias, le Gulf Stream. Alors, la circulation méridionale de retournement, ça ne fait vraiment pas beau. Donc, moi, je dis MOC. Parce qu'en anglais, c'est ça, Meridional Overturning Circulation. Vous la connaissez peut-être sous le nom de THC ou sous le nom de Conveyor Belt ou tapis roulant des océans. Vous reverrez les petits schémas derrière, c'est bien ça dont il s'agit. J'en parle beaucoup dans les médias, dans des YouTube, dans des choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'attractions ou d'intérêts médiatiques. Chaque fois qu'il y a un article qui sort, on lui dit, ça y est, le Gulf Stream s'arrête. Ah non, désolé, en fait, il ne va pas s'arrêter. Ah mais si, en fait, il s'arrête. Ah mais non. Et franchement, c'est toutes les semaines. Vous comprendrez à la fin pourquoi ça m'agace un peu et que je suis contente de prendre toutes les opportunités de remettre un peu ça d'équerre. Qu'est-ce que c'est que le Gulf Stream? C'est quoi sa variabilité? C'est quoi la MOC? C'est quoi sa variabilité? C'est quoi les vrais enjeux? C'est quoi les vrais risques? Et donc, c'est ça que j'espère clarifier avec vous pendant cette heure qu'on a devant nous. Si ça ne vous intéresse pas du tout comme sujet, parce que vous êtes trompé de lieu, vous pouvez toujours partir. S'il y a d'autres choses qui vous intéressent, je serais ravie de les aborder aussi. Et toutes les interventions sont les bienvenues. Si vous voulez juste dormir, je peux parler un peu moins fort aussi, vous avez aussi le droit. Mais s'il y a un truc que vous ne captez pas dès le début, c'est mieux me le dire. Comme ça, je peux vous rembarquer dans l'aventure et vraiment parler à chacun d'entre vous. Je ne savais pas justement d'où commencer. D'abord un petit créneau qui fait aussi partie de mes responsabilités maintenant, c'est d'encourager la place des femmes dans la science à tout niveau de responsabilité, d'intérêt, d'enjeu, parce que malheureusement il n'y en a pas beaucoup. Et donc je trouve c'est important de faire rendre hommage à toutes les femmes qui moi m'ont inspirée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour messieurs, et d'ailleurs pour aussi ceux qui ont du mal à se catégoriser d'une part ou de l'autre. La diversité elle est super importante, mais donc si on le dit dans l'autre sens, encourageons la diversité dans nos milieux, donc les femmes. Je trouve que ça sonne un peu mieux. On commence par ce petit schéma qui positionne tout de suite le paradigme. En haut à gauche, c'est ce fameux tapis roulant, la MOC, dont je vous parlais, qui est synthétisé par ce petit ruban en orange. C'est des courants chauds en surface qui vont plutôt vers l'Atlantique Nord. En bleu, c'est des courants froids en profondeur qui vont plutôt de l'Atlantique Nord dans les autres océans. Et puis, ce qui ne va pas du tout dans ce schéma, c'est les flèches qui connectent les deux. La remontée, on la voit ici dans l'océan Indien Nord et dans le Pacifique Nord. En fait, c'est essentiellement dans l'océan Austral que ça se produit. Et puis, la descente, tout le monde parle de plongée. Je ne sais pas si tu te souviens de Claire de nos années à l'Ifremer, mais je suis allergique à la plongée des eaux parce que ça ne plonge pas. Ça se mélange et ça n'a rien à voir en termes de propriété. Mais ça, je ne suis pas sûre d'avoir le temps de revenir dessus. Donc ça, c'est pour le cadre, la MOC. Et je suis très critique sur la MOC, mais ça sert à expliquer beaucoup de choses, et notamment une petite période des climats du passé, dans lesquels on a eu des alternances de climat glaciaire et interglaciaire, et à ce moment-là, on n'a rien d'autre de mieux que des oscillations internes de la MOC pour expliquer ces fluctuations. Ça veut dire que les forçages solaires, qui dominent beaucoup des fluctuations des climats passés, à ce moment-là, on les écarte. Il n'y avait pas non plus d'activité anthropique. Tout ce qui reste, c'est la MOC. Et donc toute la théorie du conveyor belt, etc., et des points de bascule aussi dont on va parler, elle provient de ça une petite partie du spectre des climats passés où c'est la seule théorie qu'ils trouvent. Donc pour moi, c'est la seule qui reste, qui est vraie, jusqu'à ce qu'on en ait trouvé une autre, en fait. On est à ce stade-là. Et vous avez bien compris que derrière, ça n'est qu'une construction mathématique. C'est souvent ce terme que j'utilise pour dire la MOP. Ce n'est pas un courant marin. Les courants marins, vous en avez une petite illustration au milieu. Au milieu, on voit plutôt une flèche rouge, c'est celle qui est en surface des eaux chaudes. Une flèche bleue, c'est celle qui est en surface au nord des eaux plutôt froides et qui passe en dessous de la flèche rouge quand on arrive aux latitudes subtropicales. Et vous voyez que la circulation, c'est essentiellement des gyres océaniques. Je vais beaucoup vous parler des gyres parce que c'est ça, en fait, le premier truc dans l'océan. Le courant, il tourne en rond comme des grandes gyres qui sont là parce qu'à l'inverse de l'atmosphère, on a des continents. Voilà, ça y est. Là, vous avez un master d'océanographie. Si on a compris ça déjà, on a compris beaucoup de choses. Et parce qu'on a du rouge, là, la couleur rouge, c'est parce qu'il fait chaud à l'équateur. Ça aussi, c'est pas très compliqué à saisir. Il fait plus froid au pôle. Le Gulf Stream, qui est le petit courant qui longe la Floride, il emmène des eaux chaudes vers le nord. Et voilà, ça, ça fait déjà un rôle de l'océan sur le climat. Mais là, on parle du Gulf Stream, on parle pas de la MOC. Et le Gulf Stream encore, là, c'est sur un schéma qu'il est représenté. Les vrais courants, c'est plutôt le schéma en bas à droite qui les représente. Où là, on voit tout un tas de petits diagrammes spaghettis. Là, la couleur, c'est l'intensité des courants dans un instantané. Et on voit que c'est le bazar. Il y a des petits traits un peu partout. Il n'y a pas les directions qui sont mises, mais c'est volontaire. C'est juste pour montrer que l'intensité, en fait, c'est plein de petites structures qui ont une durée de vie de quelques jours, quelques semaines, pas plus. On voit bien le Gulf Stream de nouveau. Il est entouré par les petites patates en pointillés. Lui, il est là. D'accord ? Il n'arrive pas jusqu'en Bretagne ni sur les côtes normandes. Ça, c'est peut-être le moment de revenir dessus, que le Gulf Stream, il n'arrive pas sur les côtes bretonnes. Et d'ailleurs, tous les Bretons savent qu'il fait froid quand on se baigne dans Bretagne. Donc, ce n'est pas le Gulf Stream qui réchauffe. C'est le Jet Stream qui fait qu'on a un climat un peu différent, éventuellement. On reviendra sur ça aussi un peu après. Voilà. C'est clair, les trois trucs. C'est clair que je critique dans tous les cas. Et donc, que pour moi, mon rôle de chercheuse qui essaye d'étudier et de comprendre les courants marins, c'est précisément de jouer avec ces trois types de modèles, avec ces trois paradigmes. Parce qu'en fait, ils ont tous l'intérêt. Comprendre les petits courants comme ça en bas à droite, c'est ça qui me permet de dire, ben non, la dynamique océanique, elle est importante. Ce qui va faire qu'on va avoir certaines conditions d'hydrographie à un endroit donné et les impacts sur les écosystèmes, il faut aller à la finesse des courants comme ça. Mais par contre, pour raconter le climat et les fluctuations du climat sur 20, 30, 40 ans, la figure en bas à droite, elle ne nous est pas très utile. C'est plutôt celle du milieu. Voir si on regarde les échelles de temps plus longues, celle en haut à gauche. Même si elles sont aussi fausses à certains égards. Commençons par le Gulf Stream, un petit aperçu historique plutôt rigolo que dans cette carte de 1786, on avait déjà identifié le Gulf Stream et surtout on avait déjà identifié le fait qu'en fait c'était bien ça. Ça c'est en contraste la photo par satellite, on retrouve ce courant qui est bien défini mais après qui se casse en petits tourbillons et surtout que quand on se rapproche de la côte c'est autre chose qui se passe. Et ça en fait Benjamin Franklin il l'avait déjà vu. Dans la description de la carte, vous voyez, même si ici, on voit le Gulf Stream quand c'est un courant hyper laminaire et continu et super fort, et bien si on lit la légende, il dit déjà que le long de la côte, il y a en fait un courant dans l'autre sens qui s'écoule du nord vers le sud, exactement à l'inverse de la trajectoire du Gulf Stream. Donc c'est intéressant parce que les gens ont encore cette idée de Gulf Stream, les gens, pardon, dans les livres de SVT à l'heure actuelle, au collège, on a encore le Gulf Stream qui est ce grand trait qui va directement en Bretagne. Et du coup, les gens ont cette idée que c'est un grand courant marin qui traverse l'Atlantique. Eh bien, pas du tout. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà, le Gulf Stream, il s'arrête quand il s'est détaché de la côte à un endroit qui s'appelle Cap Hatteras. Il ne faut pas que je bouge. Alors, comment vous décrire Cap Hatteras ? C'est, si on part de la pointe de la Floride, on remonte, là, on voit là des traits qui vont tout droit, et puis tout d'un coup, on fait un petit encart de la côte, et après, on quitte. Voilà, ça, c'est Cap Hatteras. À partir de ce moment-là, ce n'est plus le Gulf Stream. C'est autre chose. C'est une mer de tourbillons. C'est plein de petites choses qui vont éventuellement se propager vers le nord-est, etc. Après, on retrouve au large des grands bancs des courants qui sont bien marqués. Et on a un, en effet, qui va traverser l'Atlantique au milieu et aller plutôt vers le nord-est. Ça s'appelle la dérive nord-atlantique. Alors, souvent, les gens disent tout ça, c'est Gulf Stream. Moi, je suis désolée, mais dérive nord-atlantique et Gulf Stream, il n'y a pas grand-chose en commun. Donc, ce mélange des choses, j'ai du mal à le comprendre. Et surtout, bien saisir qu'entre les deux, ce n'est pas connecté. Il y a ces tourbillons. Je crois que vous avez compris. Est-ce que j'ai besoin de revenir sur pourquoi il y a des courants dans l'océan ? Parce qu'en fait, si jamais on ne comprend pas pourquoi il y en a, on se dit « Ah oui, c'est vrai, le Gulf Stream pourrait s'arrêter. » Oui, non ?
Oui ?
Oui, il faut ? Ah ben super. Alors, donc, la viscosité de l'eau fait que, quand le vent souffle, eh bien, ce n'est pas ça qui met en mouvement directement toute la colonne d'eau. D'accord ? c'est en fait beaucoup plus complexe. La partie de l'océan qui se met en mouvement directement par l'effet du vent, elle pénètre jusqu'à 50 mètres, grosso modo. Et parce que là, je regarde un corpus de mouvements océaniques qui sont de grande échelle, ils subissent l'effet de la rotation de la Terre. Et sous l'effet de la rotation de la Terre, la direction des courants en surface induits par le vent, si en surface elle est à peu près alignée avec le vent, dès qu'on descend en profondeur, elle va s'écarter de la direction du vent. Et décrire ce qu'on appelle une spirale d'Ekman, qui fait qu'à la fin, tout le transport intégré sur la couche qui va en mouvement 50 mètres, il va perpendiculairement à la direction du vent. Okay. Donc, je reprends. La partie de l'océan qui est en mouvement, les courants qui sont induits directement par le vent, c'est 50 mètres de profondeur. 50 mètres, ce n'est pas grand-chose. La profondeur moyenne, c'est 5000 mètres. D'accord ? Donc, c'est tout petit, c'est superficiel. Les gros courants, comme le Gulf Stream, ils pénètrent jusqu'à 1000 à 2000 mètres de profondeur. Donc, ce n'est pas ça qui fait le Gulf Stream. Okay ? Ça, c'est les courants directs induits par le vent. La raison, ça ne va pas dans le sens du vent, ça va à 90 degrés, parce que viscosité de l'eau et rotation de la Terre. Et du coup, ça explique plein de phénomènes que vous avez déjà vus. Par exemple, les épaulings côtiers. Le fait que le long de la côte, quand on a du vent qui souffle le long de la côte, comme il y a un courant perpendiculaire, l'eau en surface est poussée au large. C'est de l'eau en profondeur qui remonte, qui est plus froide. Hop, et voilà. C'est pour ça que le long du Portugal, le long du Maroc, il fait froid. En général, ça excite les écosystèmes. Résultat, on a des zones de pêcherie. C'est tout ce qu'on appelle les épaulings de Borest. C'est aussi simple que ça, l'océanographie. Maintenant, si on revient sur le Gulf Stream, qui est le sujet ici, si c'est pas ça qui fait le Gulf Stream, alors c'est quoi ? Ben c'est le fait que dans l'atmosphère, on a des successions de vents qui sont plutôt orientés d'est vers l'ouest et d'autres d'ouest vers l'est. Et ça, c'est valable sur toutes les planètes, quelles qu'elles soient. C'est vraiment une histoire de résolution dans la dynamique de l'atmosphère d'avoir un chauffage différentiel. Grosso modo, il y a plus d'énergie qui arrive à l'équateur qu'au pôle. Et ce gradient de pression qui existe, la solution dans un corps qui tourne, c'est pas d'aller directement du chaud vers le froid, mais c'est de tourner. Et il y a des alternances comme ça, de courants qui tournent, ou de courants dans l'air, qui tournent d'est en ouest et d'ouest en est. Donc ici, dans notre hémisphère, on les connaît, d'est en ouest, ce sont les alizés, et d'ouest en est, bah, c'est des vents d'ouest, notamment le jet stream. Et comme je vous ai dit que le courant marin, dans la couche superficielle, il va à 90 degrés à droite, alors c'est là où dans l'hémisphère sud, il faut changer de sens, donc c'est un peu plus complexe. Donc on va rester dans l'hémisphère nord. Du coup, au niveau des alizés ici, les alizés, c'est la flèche rouge qui est au niveau de 20 degrés nord à peu près. Ils vont induire un transport vers le nord. C'est la petite flèche qui est là, noire à droite. Tandis que les vents d'ouest, qui vont d'ouest en est, vont induire un transport vers le sud. Donc au milieu, je vais avoir une zone de convergence qui se situe à peu près aux latitudes subtropicales, 30 degrés nord. À inverse, plus au nord, j'ai les vents d'ouest qui vont induire un transport d'Ekman vers le sud. Et tandis que plus vers le nord, c'est les vents polaires qui soufflent essentiellement d'est en ouest. Et donc, eux vont induire au milieu une divergence. Ça va jusque-là ? Ça, c'est la même chose, quelle que soit la planète. Il faut juste avoir un océan en dessous pour que le soleil en réponde. D'accord ? Mais dans toutes les grosses planètes, on a aussi ces successions et on a aussi, du coup, ces convergences et divergences. Qu'est-ce que ça donne sur l'océan ? On est presque à l'agir. Ben, ça donne qu'au niveau des convergences, c'est le schéma qui est à gauche, on va avoir en fait une élévation de la surface libre. Ce n'est pas énorme, c'est de l'échelle de quelques mètres. 1, 2, 3 mètres. À l'échelle de tout le bassin atlantique. À l'inverse, là où on va avoir une divergence du transport d'Ekman, on va avoir une dépression de la surface de l'eau, pareil, de l'ordre de 1 à 2 mètres. Alors ça, on les observe directement. On prend une photo par satellite du niveau de la mer, tout le monde pense que c'est plat, pas du tout. Ce ne sont que des bosses et des creux. Et là, on peut dire, ah ben oui, ben, c'est les tourbillons. Non, on n'est pas sur les tourbillons là. Là, on est sur les patterns de grande échelle associés à ces grands mouvements de convergence et divergence liés à la grande structure des vents dans l'atmosphère. OK ? Bon ben voilà, ça suffit. 1 à 2 mètres de différence de hauteur d'eau à l'échelle d'un bassin océanique, c'est un tel gradient de pression qu'il faut mettre en mouvement pour libérer l'énergie potentielle qui est accumulée à cause de ce gradient de pression en surface. Et cette mise en mouvement, c'est une règle physique classique, de dire, quand on a une convergence, ça va être, avec la règle de la main droite, si vous vous souvenez, une gire anticyclonique, autrement dit dans le sens aiguille d'une montre, et quand on a une divergence, ça va plutôt être une gire cyclonique, dans le sens inverse aiguille d'une montre. Et là, vous avez vos gires qui arrivent tout de suite. Dans l'Atlantique subtropical, on a bien une convergence des masses d'eau par le transport induit par le vent, et donc on a une circulation de gire, et plus au nord, on a une gire subpolaire qui va dans l'autre sens. La même chose dans le Pacifique Nord. La même chose aussi dans l'Atlantique Sud, mais cette fois, j'ai laissé le même code couleur parce que c'est aussi les gyres subtropicales convergence, subpolaire divergence, mais qui tournent dans l'autre sens parce qu'on a la tête en bas par rapport à l'axe de rotation de la Terre. Et le Gulf Stream, ça n'est que ça. C'est que le courant qui est la fermeture de ma gyre. Alors, je ne reviens pas dans ces détails-là parce que c'est des concepts de physique un peu plus avancés, mais grosso modo, il y a ces gyres-là dans l'océan parce qu'il y a le vent et parce qu'il y a les bords. Okay. En fait, si jamais on avait une aquaplanète sans continent, on aurait la même chose dans l'océan que dans l'atmosphère, à savoir des jets qui iraient d'ouest en est partout. Oh tiens, au passage, c'est pour ça qu'au sud, là où on a une zone qui n'est pas interrompue par des continents, on a un courant qui tourne dans le même sens. Okay. Là, c'est une dynamique qui est vraiment spécifique, parce qu'il n'est pas interrompu par des côtes. Mais partout ailleurs, parce qu'il y a des côtes et qu'il y a ce vent qui souffle, qui lui n'a pas d'obstacle, eh bien on a des gyres dans les océans. Et le Gulf Stream, c'est un courant de la gyre subtropicale. Donc, ce soir ou ce week-end, quand vous allez dire « Ah, j'ai vu quelqu'un qui m'a expliqué pourquoi le Gulf Stream ne va pas s'arrêter. » Ah bon ? Bah, pourtant, au Ouest de France, ils ont dit ça encore, il n'y a pas longtemps. Eh bien non, le Gulf Stream, il s'arrête si on arrête de faire tourner la Terre. OK ? Parce qu'en fait, c'est la rotation de la Terre qui fait ça. Ou alors, on arrête le chauffage différentiel entre l'équateur et les pôles. Mais là, il faut éteindre le soleil. Donc c'est vrai, peut-être, à un moment, ça va se passer. Je veux pas, j'exagère pas dans ma caricature, mais c'est vraiment pour que vous preniez le temps de digérer ça. De faire attention, le Gulf Stream, c'est un courant qui est forcé par le vent. Il ne va pas s'arrêter. Okay, c'est autre chose, c'est la MOC. Et la MOC, c'est plus que ça. Je ne sais plus ce que je voulais dire à propos de cette petite figure, mais peut-être c'est le moment du coup de vous questionner, vous, si vous avez, si vous me suivez encore. Ça va ? Ouais.
Moi, j'ai une question, mais t'es pas là-dessus, t'es sur le transparent de trois
avant, là. Ouais.
La vue satellite.
Celle-là ?
C'est un instantané qui dure combien de temps, cette prise-là, et puis c'est mesuré comment ?
Alors, ça, c'est en fait une déduction des modifications de la hauteur de l'eau. Ah oui. Donc là, on trace aussi les tourbillons, parce que de même que pour les gyres, il y a ces gros patterns-là, eh bien, c'est la même chose pour les tourbillons à beaucoup plus petite échelle. Et donc, c'est ça aussi. On mesure la surface de l'eau, et on regarde ces différentiels, et on en déduit la trajectoire des courants en surface. Et le souci, c'est qu'on n'a pas une photo d'instantané sur toute la surface en même temps. Donc en général, une vue comme ça, c'est une petite moyenne sur une dizaine de jours. OK ? Alors, la variabilité du Gulf Stream. Je vous ai dit tout de suite, il ne va pas s'arrêter, mais quand même, il bouge un peu. Et il bouge un peu, et pour vous expliquer le un peu, il faut que je vienne à autre chose, qui est un autre moteur des courants dans les océans, qui sont les contrastes spatiaux et temporels du rayonnement solaire. Qui est reçu. Et quand je dis rayonnement solaire, là, vous allez voir que je maîtrise un peu moins les choses. C'est grosso modo toute l'énergie qui arrive à la surface. Et donc, il n'y a pas que l'histoire de rayonnement solaire, mais il y a aussi le forçage radiatif qui provient de l'atmosphère qui est au-dessus, de la présence de nuages, etc., d'aérosols, etc. Et donc là, vous avez ce qui arrive à la surface de l'océan en chauffage, en watts par mètre carré. Et vous voyez qu'en effet, on réchauffe plus dans certaines zones plus près de l'équateur qu'ailleurs. Ça, c'est attendu. Du coup, la température de surface, elle est aussi différente entre l'équateur et les pôles. C'est aussi attendu. Et là, j'amène un autre concept de physique, encore une fois, par l'énergie potentielle. C'est encore un gradient de pression, mais cette fois, ce n'est pas une modification de la surface entre de l'eau et de l'air, qui sont de densités différentes. C'est des gradients de pression entre des eaux chaudes, qui sont plutôt légères, et des eaux froides, qui sont plus lourdes. Et ce gradient de densité fait gradient de pression qui anime aussi les courants marins. Et donc, le Gulf Stream, il est aussi là, parce qu'il y a des contrastes entre des eaux chaudes et des eaux froides. Et si on fait un petit zoom sur juste la portion du Gulf Stream quand il a quitté la côte, ah ben là, vous avez le labelling Cap Hatteras. On voit bien que quand il quitte la côte, là, il passe dans un endroit où tout d'un coup, au sud, on a plutôt des eaux chaudes qui sont colorées en jaune ici. Ça aussi, c'est des mesures par satellite. Et au nord, on a plutôt des eaux froides. Des eaux chaudes, des eaux froides à la même géopotentielle, c'est instable. Résultat, on a des méandres qui se forment parce qu'on préférait avoir le chaud au-dessus du froid. Mais comme on est sur un corps tournant, et que je m'occupe ici d'une catégorie de processus qui sont de grande échelle, qui subissent la rotation de la Terre, alors on n'a pas juste un mouvement du chaud vers le froid, mais on a des oscillations, et on a ces fameux tourbillons qu'on détectait par satellite tout à l'heure. Et donc ces méandres-là font des anneaux froids, il y en a aussi avec plutôt des anneaux chauds. Ça, c'est une autre vision, un petit zoom qui montre qu'on a aussi des anneaux chauds qui s'étagent. Donc les anneaux froids vont s'étacher sur le sud du Gulf Stream, les anneaux chauds vers le nord. Et en vrai, si on fait de façon statistique la trajectoire de plein de petits flotteurs qu'on aurait mis, laissés circuler en surface, et ça, sauf erreur de ma part, c'est une vraie expérience où on a mis des petits flotteurs qui dérivaient, en fait, on voit qu'on a bien la trajectoire du Gulf Stream le long de la côte qui est très bien définie. Visiblement, ils ont tous pris là un genre de jet comme dans Nemo où les petites tortues, hop, elles s'embarquent. Ça existe vraiment. Mais après, pim, c'est ce qu'on appelle les diagrammes spaghetti. Ils partent dans tous les sens parce qu'en fait, ils vont osciller et ils vont avoir une trajectoire un peu erratique parce que captés par ces anneaux chauds et froids qui après vont faire leur vie. Ça, c'était pour finir d'enterrer le fait que le Gulf Stream arrivait sur les côtes. J'ai mis un gros panneau rouge aussi. C'est un courant turbulent qui disparaît bien avant d'atteindre les côtes bretonnes. Je pense que là, on est au taquet. Et donc, sa position du Gulf Stream, c'est quelque chose qui est assez bien mesuré. Là, c'est une trajectoire, c'est une radiale, XPT. Donc, c'est des mesures qui sont faites en mer sur un bateau, la radiale noire, pour regarder année après année où était la position du Gulf Stream. Évidemment, on ne va pas faire ça trop en aval du décollement, parce que là, on est en train d'estimer un champ de tourbillon. On fait ça juste après son décollement, pour voir si quand même, parfois, il va un peu plus au nord, un peu plus au sud. En fait, on avait une petite idée que c'était bien le cas. Et en effet, ce que vous voyez sur le panneau du milieu, c'est la position du maximum des vitesses le long de cette radiale noire, et vous voyez en effet des incursions plutôt vers le nord, vers le sud. Et sur le panneau de droite, c'est l'intensité du transport qui est mesuré au travers de cette radiale. Et on voit qu'il y a aussi des fluctuations d'intensité, mais qui ne sont pas directement reliées à la position. Donc, la variabilité du Gulf Stream, c'est ça. C'est qu'il a en effet des fluctuations qui sont vers le nord, vers le sud. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est lié à la structure de l'atmosphère qui est au-dessus, et que ce n'est pas qu'une histoire de l'atmosphère qui fait que le Gulf Stream va vers le nord, vers le sud, mais qui a aussi un impact en retour. Donc là, je vais essayer de vous expliquer un truc, mais c'est normal que vous n'ayez pas compris qui fait quoi. Parce qu'en fait, les deux sont en équilibre. Okay ? Donc là, le petit schéma, c'est la situation du Gulf Stream après un hiver NAO positif. NAO, c'est le grand mode de variabilité qui domine les fluctuations dans l'atmosphère, dans l'hémisphère nord, dans le secteur Europe et Atlantique. Tout à l'heure, j'ai un petit schéma qui vous montre et vous repérerez par rapport au régime de temps qu'on a en Europe. Et donc, sur le panneau de gauche, on a la situation un hiver NAO+, l'hiver d'après. Qu'est-ce qu'on a ? On a un Gulf Stream qui est plutôt vers le nord, et on a surtout des masses d'eau qui sont chaudes sur cet espace entre la côte américaine et canadienne et le Gulf Stream lui-même. À l'inverse, quand on a des conditions NAO négatives, le mode opposé dans l'atmosphère, l'hiver d'après, on a plutôt dans cet espace ici, entre le Gulf Stream et la côte, des eaux froides qui proviennent de la gyre subpolaire au-dessus, et du coup un Gulf Stream qui est plutôt au sud. Ça, ces fluctuations, c'est ce qu'on utilise pour expliquer ceci. Et c'est ça la variabilité du Gulf Stream. Et en effet, il y a plein de publications qui décrivent le Gulf Stream d'une année sur l'autre. Et donc, on essaye d'anticiper, est-ce qu'on peut prévoir, etc. Mais j'attire votre attention sur le fait que c'est couplé. En fait, l'océan et l'atmosphère sont toujours à peu près en équilibre thermique. Quand l'air est plus chaud, hop, l'océan est chaud en dessous, et inversement. Et donc, si on relie ça avec les patterns des dépressions et des anticyclones dans l'atmosphère, c'est bien parce qu'on a des anomalies chaudes de l'océan, au nord du Gulf Stream, que tout d'un coup ici, on va avoir une déviation du jet stream, tranquillement, vers le nord de l'Europe, et du coup, une arrivée des masses d'air plutôt chaudes et humides au niveau de la Scandinavie, et à l'inverse, des masses d'air plutôt froides et sèches sur l'Europe du Sud. Ça, c'est la NAO+. Et le symétrique, c'est la phase NAO-, où là, quand on a des masses d'eau froide au nord du Gulf Stream et un Gulf Stream qui est vers le sud, alors on a ici un jet stream qui fait beaucoup plus de méandres et qui va aller vers le nord très vite au-dessus du Groenland et du coup ramener après plutôt des masses d'eau chaude et humide dans le sud de l'Europe et des masses d'eau froide et sèche sur la Scandinavie. Je ne suis pas du tout une spécialiste de la NAO. J'ai des collègues qui le sont beaucoup mieux que moi. Et en plus, ce paradigme de NAO+, NAO-, il a été un peu revu il y a une dizaine d'années. On parle maintenant plutôt de régime de temps sur l'Europe, avec notamment des régimes de blocage. Et ça, c'est un terme qui est arrivé dans les prévisions météo. On nous dit, oh, attention, blocage sur la Scandinavie, ça veut dire un pattern hyper stationnaire pendant plusieurs jours. Et soit ça amène des masses d'air qui viennent du sud, soit du vert du nord. C'est pas ce qui est dit ici par la NAO. La NAO, c'est un peu vieille école. C'est ce que j'ai appris, moi, il y a 20 ans, quand j'étais en master. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Mais je trouve que ça illustre encore bien combien ce Gulf Stream, c'est l'océan, mais c'est l'océan qui chauffe l'atmosphère au-dessus, donc qui est en contact avec lui, et que du coup, ça a un impact sur le temps qu'il fait. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, le Gulf Stream, il a bien un rôle à jouer sur le climat de l'Europe de l'Ouest. Mais je ne vous ai pas encore parlé de la MOC. Je vous ai juste parlé du Gulf Stream, comme le grand courant de l'océan qui est capable de ramener et de créer des anomalies chaudes ou froides à certains endroits, qui s'avère être l'endroit d'où proviennent les vents dominants quand on est sur l'hexagone. Ça va ma démonstration ou il y a des petits hics? Franchement, moi, il y a plein de hics là-dedans que je ne maîtrise pas. Mais bon, si vous me posez des questions, vous les verrez. Alors, on arrive à la MOC, parce que je crois que l'heure tourne. Qu'est-ce qui se passe après? On avale le Gulf Stream. Donc, je vous ai dit, il y a la dérive nord-atlantique. Là, c'est moi qui ai fait ce schéma. Je l'ai mis explicitement. Et il y a les courants en surface qui sont plutôt chauds, qui vont continuer. Cette fois, on n'est plus sur une gyre subtropicale dans le sens des aiguilles montent, on est dans l'autre sens, d'accord? Parce que les transports d'ECMAD sont plutôt divergents. Donc, dépression au cœur de la gyre. Mais là, on va toujours avoir des courants chauds. Alors, je l'ai mis rouge pour la dérive nord-atlantique, puis orange, parce que tout au fur et à mesure du trajet de ces courants, ils vont réchauffer l'atmosphère qui est au-dessus. C'est le jeu. C'est quand même l'océan qui réchauffe l'atmosphère de la planète. D'accord ? Il prend de la chaleur, il le stocke, il la garde, parce que c'est dense, l'océan, c'est l'eau, capacité thermique plus importante, c'est ça qui va réchauffer l'atmosphère. Donc, petit à petit, ça devient orange, et ça, ça fait la gyre subpolaire. Et en dessous, en même temps, on a les courants bleus. Des courants bleus qui viennent un peu de ce qui se passe dans les mers nordiques, mais qui sont en fait le symétrique des courants denses, en profondeur, froids, qui vont eux aussi tourner dans le même sens que les courants en surface, et qui eux vont emmener donc ces eaux denses qui proviennent des mers nordiques, mais aussi d'autres masses d'eau qui vont s'agglomérer au fur et à mesure. Mais tout ça, ça tourne dans le même sens, la gyre subpolaire. C'est vraiment quelque chose de spécifique. On a les mêmes directions des courants, de la surface jusqu'au fond, jusqu'à 3000 mètres de profondeur. C'est vraiment unique. J'insiste sur le côté unique, parce qu'après, quand ça sort, c'est là où ça fait un truc rigolo, c'est qu'ils se croisent. Quand ils arrivent au large des grands bancs de Terre-Neuve, on a les courants profonds qui vont passer en dessous des courants de surface chauds, tandis que les courants en surface vont continuer à faire leur truc, parce qu'eux, ils sont bloqués. Et là, ça passe en dessous, et ça, ça fait de l'overturning. Là, ça plonge. Okay ? On dit souvent que ça plonge parce que la convection au milieu, la convection, c'est un phénomène complètement unique. Ça se passe à trois endroits sur la planète. Grosso modo, on revient à mon histoire d'énergie potentielle. Pour un système stable, il faut des eaux légères en surface et lourdes au fond. Et l'océan, c'est un château de crêpes. Et on ne fait jamais de mélange entre les crêpes. Sauf à trois endroits, où tout d'un coup, on était déjà tellement peu stratifié qu'il suffit d'un coup de vent en surface ou d'un coup de froid que, bim, les masses d'eau en surface se retrouvent plus denses qu'en profondeur et ça entraîne un mélange convectif. Le même mélange que quand vous allumez un truc qui a des cellules convectives. La même chose que quand on chauffe sa casserole, d'accord ? C'est exactement le même processus. C'est la même chose dans l'atmosphère, quand on a des régimes convectifs dans les hautes latitudes qui font toutes les précipitations, etc. C'est la même chose, sauf que dans l'océan, c'est la tête en bas. Et ça se passe aux hautes latitudes. Là où on peut avoir des contrastes très forts entre l'eau qui est chaude et l'air qui est froid. Et pif, l'océan largue sa chaleur, devient trop dense, instable avec l'océan en dessous, mélange convectif. J'insiste, mélange convectif, en même temps que j'ai un doigt qui fait ça, j'ai un autre qui remonte. C'est pour ça que je dis que ça plonge pas. Parce que si on dit ça plonge, on imagine le truc d'entraînement, là. Où c'est bon, c'est comme la chaîne de vélo, ça a plongé, bah oui, du coup, ça a poussé en profondeur. Psst, pas du tout. Ça mélange. Il y a les trucs qui tournent, comme ça, les trucs qui tournent, comme ça, ça se croise, et puis il y a un endroit où ça mélange. Voilà. Bah, si vous avez compris ça, retenez cette image-là, vous comprendrez pourquoi on ne sait pas ce qui va se passer sur la MOC. En fait, la réponse, elle est là. C'est pour ça qu'on ne sait pas. C'est que la MOC, pour rappel, c'est la somme de tout ça. Donc, la définition mathématique de la MOC, c'est la somme, le transport total du sud vers le nord, dans l'Atlantique Nord, par profondeur. Donc, on fait la somme de tous ces processus et on regarde ce que ça donne. Ben, évidemment, s'il y a essentiellement en surface des processus vers le nord et en profondeur des processus vers le sud, à un moment, c'est tout connecté, ça plonge. Sauf qu'il n'y a pas de processus qui fait que ça plonge. C'est une construction mathématique qui fait que ça plonge. La vraie plongée, elle a lieu quand on a le crossover entre la dérive nord-atlantique et le courant profond de nord-ouest en dessous. C'est là réellement où il y a une plongée. C'est complètement déconnecté de la formation des eaux denses. Donc le problème, c'est que pour observer la MOC, bah, il faut instrumenter tout l'Atlantique Nord, d'ouest en est, d'un bord à l'autre. Et bien, bah, ça te fait sourire, mais il y en a qui l'ont fait. Merci les Anglais et les Américains d'avoir subventionné ça. Les Français ont participé un peu aussi. C'est un programme qui est dans l'eau depuis 2004 et qui a un mal fou à se faire financer parce que les politiques ne voient pas l'intérêt. C'est ce programme qui a fait le jour d'après, le blockbuster, quand même. Parce qu'avant ça, on n'avait pas de mesure en continu de la MOC. Et pour vous raconter quand même la petite anecdote, j'ai le temps. En fait, avant ça, on se servait de mesures hydrographiques qui étaient prises un peu de temps en temps. Et ces mesures hydrographiques, l'équipe, et le premier auteur s'appelle Biden, a fait, Biden d'ailleurs, Biden c'est le président, Biden a combiné des trucs différents. Et là, tout d'un coup, il y avait une mesure dans les années 50, une dans les années 70, tac, 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 et puis ça faisait 4 points qui descendaient. Et là, oh, l'imbroc est en train de s'arrêter, le tapis roulant s'arrête, le jour d'après, etc. C'est vraiment ça qui s'est passé. Moi, je commençais ma thèse. Depuis, on s'est rendu compte qu'en fait, bah, les 3 points étaient pris à des saisons différentes et que c'était juste un effet saisonnier. Mais pourquoi on s'est rendu compte de ça? Parce qu'on a eu ces mouillages qui étaient en continu dans l'eau. Avant 2004, on ne les avait jamais eus, on ne savait pas. Et depuis 2004, à chaque fois qu'on va relever ces mouillages, parce que vous voyez le truc, pour faire des mesures de courant, il faut aller sur place avec un bateau, larguer tout un bazar, qui reste dans l'eau pendant un an, on revient un an après, si on a un peu de chance et qu'on active un petit signal acoustique, bim, ça remonte, si on n'a pas de chance, ça reste au fond, il faut recommencer, on a perdu la donnée. Enfin, c'est ça la réalité, allez voir les collègues qui font ça, c'est ça la réalité de prendre des mesures de courant. Donc là, fort heureusement, ils en avaient mis assez, ils ont mis des gros moyens, on a réussi à voir, et chaque année, on découvre des choses nouvelles sur la moque. On s'est rendu compte que du coup, d'une année à l'autre, ça n'arrêtait pas de passer on et off, positif, négatif, ça bascule en permanence. Que d'une semaine à l'autre, pareil, d'un mois à l'autre, pareil, d'une année à l'autre, pareil. Et donc, toute l'interprétation qu'avait faite avant est complètement caduque. Mais c'est complètement stupide. Et c'est encore ce sur quoi se basent tous les journalistes qui vous disent « Vous inquiétez pas, le changement climatique, tout va bien, la moque va s'arrêter, ça va compenser. » C'est sur ça qu'ils se basent. Hein. C'est ça la réalité. Donc, la moque, c'est compliqué à... analyser. Ouh, j'ai oublié que je voulais vous parler de ça. Ça, je vais vous le faire très très vite, on revient dessus après si ça ne vous parle pas. C'est le cours 0.0 de pourquoi l'océan, ça joue un rôle dans le climat. C'est cette histoire de redistribution de la chaleur de l'équateur vers les pôles. Grosso modo, ça, c'est les watts par mètre carré, c'est la chaleur perçue à la surface de l'atmosphère en marron, et puis à la surface de la Terre en rose. Même forme, plus à l'équateur qu'au pôle, mais décalée parce qu'il y a une grande partie qui repart tout de suite vers l'espace. Tandis que le bleu, c'est le rayonnement qui est produit par la Terre, comme un corps chaud dans l'espace. Et le bleu, il est plat, parce que la Terre, par rapport à l'espace, peu importe qu'il fasse plus chaud à l'équateur qu'au pôle, c'est négligeable par rapport à la température de l'espace. Donc, la courbe bleue, c'est la même, quelle que soit la latitude. Résultat, on se retrouve dans la zone équatoriale à avoir la courbe rose et la courbe bleue qui montrent qu'on a un excédent de chaleur qui arrive à la surface. Et au pôle, c'est l'inverse. On a un excédent de chaleur qui repart du système. Donc ça, à la fin, il n'y a pas photo. Si on veut que ça donne un corps dans un équilibre d'un climat stationnaire, il faut que l'excédent de chaleur reçu à l'équateur soit transporté vers les pôles pour compenser. Si ce n'est pas le cas, le corps il va en permanence se réchauffer à l'équateur et en permanence se refroidir. Ce n'est pas juste que ce sera plus contrasté, c'est que tout le temps, ce ne sera jamais stationnaire. Donc ça, c'est les cours basiques de climatologie. Et l'océan, il fait ça. Et il fait ça par les courants de bord ouest, et il fait ça par la moque. C'est la partie moque qui va vraiment faire la pénétration jusqu'aux très hautes latitudes. D'accord ? Donc c'est pour ça que la moque, cette histoire des échelles de temps paléo, où tout d'un coup on est on et off, glaciaire, interglaciaire, bah c'est une histoire de transporter l'excédent de chaleur vers les hautes latitudes ou pas, en fait. Mais donc je vous ai dit, la moque, elle est difficile à mesurer. Résultat, on développe des modèles. Et on essaye de voir, via les modèles, comprendre le fonctionnement et comprendre la variabilité temporelle de la moque. Et donc ça, c'est une figure qui est une composée de plein de figures qui viennent plutôt des rapports du GIEC, où on a en noir la série temporelle de l'intensité de la moque. Alors là, ouais, les unités, c'est Sverdrup, c'est des millions de mètres cubes par seconde. C'est grosso modo un débit. Et j'ai même pas mis la valeur moyenne parce qu'on s'en fiche un peu, ce qui compte, c'est l'évolution. Et donc en noir, c'est les observations. En bleu, c'est les modèles du passé. Et en rouge, c'est les scénarios futurs. Alors, déjà, c'est assez remarquable que sur la période passée, les modèles ne soient pas d'accord, mais avec une incertitude qui est constante dans le temps. Ouais, ça, on ne sait pas encore pourquoi. On n'a pas trop bien compris. À l'inverse, le rouge, c'est un seul scénario socio-économique. D'accord ? C'est une seule trajectoire d'émission. C'est la même. Et pour autant, ça diverge. Et là, la divergence, elle vient directement du fait que les modèles n'ont pas la même sensibilité climatique. Ça, ça veut dire qu'un modèle à l'autre... En fonction de comment, on lui rajoute la même quantité de gaz à effet de serre, il ne va pas se réchauffer autant. Parce qu'il y a des rétroactions qui vont avoir lieu, plus ou moins, qui mettent en jeu les surfaces continentales, qui mettent en jeu la cryosphère, les stocks d'eau gelée ou pas, l'océan aussi, la pompe de carbone, etc., etc. Donc là, le spread rouge qui explose, c'est parce que les modèles ne sont pas d'accord sur comment, avec la même émission de gaz à effet de serre futur, ça va se réchauffer. Combien ça va se réchauffer ? On est d'accord que tous, ils diminuent. Il est là, le constat, et le constat établi que, de toute façon, la moque va diminuer. Okay ? D'où ce rapport spécial de l'IPCC, le SROC, qui est sorti en 2019, qui raconte les impacts attendus d'un affaiblissement de la moque. Alors là, on pourra revenir aussi dessus dans les questions si ça vous intéresse. Il faut prendre le temps de regarder les petits pictogrammes. Il y a des petites flèches vers le haut pour dire ça augmente, des petites flèches vers le bas pour dire ça diminue. Il y a des petits points pour dire les incertitudes. Et puis, il y a des couleurs pour, si on parle du système physique, biologique, système humain, la direction du changement, etc. Je vous le fais très vite, c'est pas bon, parce qu'en fait, tout se superpose déjà avec les conséquences directes du changement climatique. D'accord ? Si vous aviez dans l'idée que ça va compenser, non. La seule éventuelle compensation qu'on peut voir, c'est tout en haut, là-bas, la petite étoile au nord de la Scandinavie, qui dit qu'on va augmenter les précipitations de neige. Mais en réalité, si on regarde dans les modèles ce qui se passe, c'est via des événements extrêmes. Ce n'est pas une température moyenne qui refroidit. Et ces événements extrêmes, c'est déjà une signature du changement climatique. On sait qu'avec le changement climatique, on va révéler par une augmentation de la fréquence des événements extrêmes et en intensité. La même chose pour le petit thermomètre sur la droite de l'hexagone qui dit une température qui diminue. En moyenne sur l'année, non. C'est des événements froids, mais en fait, sur le chaud, on a aussi en signature d'une diminution de la moque une augmentation des canicules estivales. Donc en fait, tout ça, c'est dans le rapport de l'IPCC, les impacts de la moque, c'est ceux directs du changement climatique empire. Mais il y a quand même un truc qui reste un peu en suspens, et c'est là où j'arrive moi dans mes recherches, c'est que tous les modèles ne sont pas d'accord. Tous les modèles disent que ça diminue, mais ici vous avez l'amplitude du drop, de la diminution par an, pour deux catégories de modèles, qui diffèrent par la résolution dans la composante océanique. La résolution, c'est les petits pixels quand vous prenez des photos. Pour les modèles de climat et d'océan, c'est la même chose. À droite, vous avez des modèles de basse résolution spatiale, 1 degré, 100 km. Vous voyez qu'on est super mauvais pour représenter le relief des Alpes, etc. À l'inverse, à gauche, c'est des modèles de plus haute résolution spatiale, on commence à plus voir de finesse. Bon, ben là, c'est pas juste pour faire joli, c'est que du coup, dans la représentation des processus, on va être plus capable, à gauche, de représenter ces petits processus. Les tourbillons dont je vous parlais, les petits détails de courant le long de la côte, etc. À droite, on n'est pas capable. Donc, la figure que je vous montrais tout à l'heure, c'est les modèles de droite. Et si jamais on avait eu des modèles un peu plus fidèles dans la représentation des processus, qu'est-ce qu'on aurait eu comme diminution? Eh bien, encore plus de diminution de la moque. Donc, le constat, la petite réponse, quand vous direz à vos invités ce week-end, la moque, c'est vrai, ça va diminuer. Et si vous dites, ouais, mais les modèles, ils sont super mauvais, ils sont hyper grossiers. Bah non, en fait, quand ils sont à encore plus haute résolution, ils diminuent encore plus fort. Et j'ai une autre petite illustration pour ça, que je suis allée chercher directement dans un article. C'est la trajectoire de la moque. Donc, en noir, c'est le cas de référence. Et en rouge, c'est quand on lui a imposé une augmentation de CO2 de 1% par an. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on regarde derrière. Là, on regarde des trajectoires de climat futur, les fameux SSP, les scénarios, etc. Là, c'est plutôt des choses idéalisées, parce qu'on sait bien que dans les trajectoires, il y a la question de l'état initial, on n'est pas confortable, etc. Donc là, on est idéalisé. J'ai une moque stationnaire, aujourd'hui, le contrôle, la référence, c'est en noir. Et je lui impose 1% par an de plus de CO2, qu'est-ce que ça donne? À gauche, vous avez la courbe orange qui diminue. Bon, c'est cohérent avec le message tout à l'heure. Mais regardez ce qui se passe au milieu. C'est le même modèle avec un peu plus de résolution spatiale. Où on commence, on voit au-dessus dans des patterns qui représentent l'intensité de l'énergie en surface, on voit qu'on a un peu plus de traits, on a des trucs un peu plus énergiques. Là, tout d'un coup, on voit les courants autour du Groenland dont je vous parlais. Ok, mais là, du coup, la courbe orange, elle est la même. Elle n'a pas bougé. Et à droite, c'est quand on va à encore plus haute résolution, où là, on a encore plus de détails, et là, de nouveau, on a un truc qui diminue. Bon, ben là, il faudrait savoir, en fait, quand on augmente la résolution spatiale, elle diminue plus, la manque ou pas? Eh ben, on ne sait pas. Parce qu'en fait, tous ces modèles-là ont tous leur part d'imperfection, et tous leur part d'incertitude. Et il y en a surtout une énorme, qui est la calibration des paramètres de ces modèles. Tous, même ceux qui sont à plus haute résolution, il y a toujours des paramètres qu'on ne sait pas mettre. Et quand je dis paramètres, c'est un chiffre entre 1 et 2, et je mets 1,1 ou 1,2. C'est vraiment de cet ordre-là. Donc quand je parle de choses sur la calibration, je crois que je vous donne un petit exemple après, c'est un bouton qu'on tourne. Hein. On parle de tuning, c'est la même chose que de faire sa voiture super belle alors que c'est toujours une voiture qui crache du carbone. C'est ça, le tuning, c'est vraiment ça. Ah, je vais encore plus loin là, dans le truc un peu déprimant. Et on arrive, oui c'est ça, c'est les slides que j'avais rajoutés hier soir en me disant mais il faut que je vous parle quand même de la bistabilité. On arrive à la bistabilité au point de bascule. Alors tout en haut, c'est un schéma très classique qui montre combien la moque dépend de l'apport d'eau douce aux hautes latitudes. C'est la petite image cliché que vous avez sûrement déjà entendue, qu'on rajoute de l'eau douce, ça stabilise les masses d'eau en surface, ça ne peut plus plonger ou faire un mélange convectif, comme a dit la dame, et du coup ça arrête la moque. Et bien en effet, mais il y a deux régimes. il y a une partie à gauche de ma ligne verticale, là, qui est, ça diminue de façon un peu linéaire et progressive. Et puis si jamais on arrête le forçage, ça remonterait. Mais il y a une partie à droite qui montre qu'il y a deux états stables. Et que si jamais on continue, qu'on vient de la branche du haut et qu'on diminue, à un moment, on va passer à un point de bascule, S pour saddle point, et on va migrer sur la branche du bas, qui est la moque off, arrêt total. Et si là, on veut la faire remonter sur la branche du haut, on, eh ben on doit, c'est un diagramme d'hystérésis, on doit revenir beaucoup plus vers la gauche, autrement dit rajouter du sel, beaucoup plus loin que quand elle est tombée, pour espérer la voir remonter sur la branche du haut. Ça, c'est le diagramme de bistabilité de la moque, d'où vient toute cette histoire des points de bascule de la moque. Okay ? C'est un diagramme qui vient évidemment de choses très théoriques. Et vous allez voir juste après que ça ne marche que dans ces modèles théoriques. Mais c'est quand même ça l'idée qu'on en a, et c'est ça qui est derrière cette explication des climats du passé, qui avait cette capacité de faire on et off, c'est ça en fait l'explication. C'est que la moque, c'est un système complexe avec un hystérésis à l'intérieur. Et du coup, quand on descend, au bout d'un moment, on se casse la figure et pour remonter, il faut aller beaucoup plus loin pour remonter sur la branche dessus. Il y en a plein d'autres, des systèmes comme ça. On parle de systèmes chaotiques, fortement non linéaires, etc., etc. Voilà, bah, la moque, c'est ça. Du moins, la moque construction mathématique. Bon, une analyse que j'ai faite, je suis allée dépiler un papier de 2013, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est pour vous illustrer à quoi ça se joue d'être stable ou bistable. D'accord ? À gauche, on parle d'état monostable, à droite, bistable. Eh bien, ça joue à un petit truc dans cette étude-là, qui est la quantité d'eau douce et de sel dans l'Atlantique Sud. OK ? Là, sur ce diagramme en bas, vous voyez la petite section, c'est au sud de l'Atlantique Sud, avant de passer à la connexion avec l'Indien. En vert, c'est des masses d'eau salée. En violet, c'est des masses d'eau douce, par rapport à la profondeur. Et on voit qu'en effet, à gauche, il y a plus de violet qu'à droite. Il y a plus d'eau qui sont douces, dites. Ça, c'est des eaux antarctiques intermédiaires, des eaux modales qui sont formées au sud et qui vont arriver comme ça et passer en dessous des eaux subtropicales plus salées. Et il y a une ligne blanche. Cette ligne blanche, c'est la ligne qui sépare la branche de surface et la branche de fond. Alors, je vous ai dit, ces branches-là, ce n'est pas des courants en tant que tels, c'est des constructions. Donc, en fait, pour obtenir cette ligne blanche, je suis allée chercher les courants et j'ai regardé là où il y avait ces fameux croisements et à quelle profondeur ça se croisait. Et à gauche, dans le modèle de plus basse résolution, ça se croise profond. Et à droite, dans les modèles plus haute résolution, ça se croise moins profond. Résultat, à gauche, ma branche supérieure de la moque, elle amène beaucoup d'eau douce. Et si elle amène beaucoup d'eau douce, à un moment où j'arrête la moque, j'arrête d'apporter de l'eau douce. Autrement dit, petit à petit, ça va plus se saler. Résultat, je vais avoir tous les ingrédients pour relancer la formation d'eau dense et pour réentraîner la moque. C'est pour ça qu'à gauche, c'est un état monostable. J'ai une rétroaction négative du sel par ce transport au sud qui fait que la moque va d'elle-même se rétablir. À l'inverse, à droite, j'ai moins d'eau douce dans ma branche supérieure, c'est plutôt du sel. Si j'arrête ma moque pour une raison ou une autre, j'arrête d'amener du sel, j'arrête d'amener la raison de faire des eaux denses, donc je vais encore moins en faire, mais je l'ai déjà arrêtée, donc tout de suite, je vais vraiment la faire collapse et l'arrêter complètement. C'est ce qu'on appelle une rétroaction positive du sel qui va faire que j'ai en effet un point de bascule et que je vais passer ailleurs et que là, je n'y reviendrai pas ensuite à l'état précédent. Et ça, ça se joue à quoi ? Ça se joue à la profondeur de ma petite ligne blanche. Alors, je ne vous ai pas mis ça juste sur le dessin, c'est tout ce qui est dans l'article que j'ai publié en 2013. Ça se joue que à ça. Et après, il y a plein d'autres analyses qui ont montré qu'en effet, tout ce qu'on synthétise dans le diagramme de stabilité, l'histoire de la moque, le point de bascule, etc., ça se joue à des petits détails de processus à certains endroits un peu clés. Et on ne sait toujours pas pourquoi, dans les modèles de basse résolution ou de haute résolution, ça se représente comme ci ou comme ça. On ne sait pas. Du coup, le point de bascule de la moque, il y en a un ou il n'y en a pas ? Je vous ai mis l'état de mes connaissances et j'ai fait attention de mettre une date parce que ça change très régulièrement. Et vous pourrez regarder ça vous-même. J'espère que maintenant, vous aurez assez de bagages pour écouter vous-même les vidéos qui sont sur Internet à ce sujet. Je vous en ai mis un exemple tout à l'heure. Dans les modèles suivants, en effet, la moque peut basculer. Des modèles simplifiés, c'est de là que vient la théorie. Okay ? Et ça, c'est des modèles en boîte, c'est ultra simplifié. C'est très bien pour faire la théorie et pour comprendre. Mais on ne peut pas dire que c'est des modèles qui sont réalistes. Plusieurs modèles CEMIP 5, ça c'est les générations des modèles 2010, grosso modo, sous apport d'eau douce. Ça veut dire que si juste on les emmène dans le futur, ils ne font pas de collapse. C'est si on les amène dans le futur et qu'on leur rajoute de l'eau douce, sous explication que oui, mais la fonte des calottes n'est pas représentée, donc il faut bien la mettre. Okay. Plusieurs modèles CEMIP 5, dans ces cas-là, collapsent la moque. Les modèles de nouvelle génération Semipsis, qui sont sortis fin des années 2010, il y en a quelques-uns qui collapsent sous le même apport d'eau douce, parce qu'on n'a toujours pas les calottes dans les modèles Semipsis, et que les modèles Semipsis, spontanément, sous l'effet juste du changement climatique, ne collapsent pas à la manque. Et enfin, on a plein de modèles statistiques de systèmes non linéaires qui font des collapses de la moque, mais j'ai envie de dire par construction. Beaucoup d'articles qui sont sortis ces 2-3 dernières années ne sont que ça. Et on se demande par quoi ils sont alimentés. Parce que je vous ai dit, les observations de la moque depuis 2004 simplement. 2004, on est en 2025. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution climatique à partir de 20 ans de données ? Rien du tout. Donc, il y a plein de gens, et c'est super intéressant d'avoir ces inputs pour la communauté océanographique, qui font des études de systèmes dynamiques, non linéaires, complexes, etc. C'est génial, il y a plein de choses à en faire. Mais par contre, de dire que ça, c'est la vérité, et que parce qu'eux font une pointe bascule de la moque avant 2040, tout de suite, il faut que je réponde à Ouest France, parce que c'est vrai alors que ça s'arrête avant 2040 ? Bah, non, je crois pas. C'est intéressant pour alimenter la discussion scientifique. Il y a une vraie discussion scientifique. Est-ce que c'est vraiment pertinent d'inonder le média sur ça, le grand public, alors que c'est juste une pièce dans la discussion ? Alors, dans les projections futures, là où on fait vraiment juste le scénario futur, bah, la bascule, ça dépend des conditions initiales de l'expérience. Et ça, c'est vraiment le truc à retenir, c'est qu'il y a une variabilité interne de la MOC. C'est vraiment quelque chose qui varie sur des échelles de temps plutôt multidécennales à centennales. Donc elle a sa propre mémoire. Et en fait, ces simulations-là qui éventuellement basculeraient, c'est d'abord à cause des choix d'état initial. D'accord ? C'est pas dans tous les cas. Donc c'est pour ça que toutes les projections futures, maintenant, on les fait pas qu'une fois, on fait des ensembles de runs, où on change les conditions initiales, on explore aussi l'incertitude des paramètres, etc. etc. Les impacts de la bascule de la MOC, je vous ai montré ma petite carte avec les vignettes, malheureusement, c'est pas les mêmes. Selon qu'on produise une bascule en rajoutant de l'eau douce, en se disant, oui, mais quand même, dans le futur, à un moment, il y aura ça, donc je vais faire l'expérience. Ouais, mais non, en fait. Parce que si on ne fait pas ça et qu'on laisse juste se faire le système climatique dans le futur, on n'a pas à la bascule. Et si éventuellement, il y en a une, parce qu'on a choisi bien l'état initial, alors les impacts ne sont pas les mêmes sur le climat. Donc c'est pour ça que, pour moi, il faut être très vigilant quand on dit, oui, mais du coup, alors, ça va se refroidir ou pas ? Bah non, ça va. La signature de refroidissement, de réchauffement, c'est pas la même selon l'expérience qu'on a faite. Donc on ne peut pas interpréter comme ça des résultats d'une bascule de la MOC quand on a rajouté comme un malade de l'eau douce, parce que quand même, à un moment, il y aura de l'eau douce, et dire que c'est ça le futur. Il faut être un peu raisonnable. Et en vrai, dans les articles scientifiques, c'est pas dit, ça. Les articles scientifiques sont très, très modérés. Et ils alimentent cette discussion scientifique. C'est passionnant. J'espère que les jeunes, vous avez transmis ma passion. Je trouve ça incroyable de travailler sur un système aussi complexe où il y a tellement de choses qu'on n'a pas compris. Mais il ne faut pas faire dire ce qu'on veut. Enfin, vous avez compris mon agacement sur la manipulation. Et je suis pas revenue sur les mécanismes de rétroaction, mais il y en a plein qui impliquent la glace de mer, la salinité subtropicale, l'eau douce australe, je vous en ai parlé, ce que j'ai évoqué, mais aussi des précipitations et évaporations. Si vous voulez en savoir plus, 25 mars, c'était mardi dernier, il y a eu ce webinaire. Si vous n'avez pas le trouvé, je vous ai fait un tiny URL à MOCTIP. Oh, là, je suis fashion, hein, je suis plus dinosaure. Hein. Comme ça, vous faites tiny URL, vous faites à MOCTIP et vous allez voir le webinaire. Moi, j'ai trouvé très bien fait. Et c'est ça les conclusions. Et donc, qu'est-ce que dit le rapport du GIEC ? Il dit, en résumé, même si l'affaiblissement de la MOC est very likely, là, on a compris, on n'y loupe pas, un abrupt collapse avant 2100, il se considère de very unlikely. D'accord ? Et ça, c'est le consensus. Et je ne dis pas ça parce que je suis payé par le GIEC et parce que c'est ce qu'on dit dans les réseaux sociaux, que ah ouais, mais c'est un peu louche quand même, elle défend trop le GIEC. Bah ouais, mais le GIEC, il fait la synthèse de toutes ces études avant. Dans le webinaire, là, si vous le regardez, méfiez-vous. Il y a beaucoup de choses, c'est submitted, c'est pas published, hein, c'est en revue. Donc, on n'est pas tout à fait sûr encore qu'à la fin, ce sera ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter, mais ça veut dire qu'il faut le prendre à sa juste mesure. Et c'est bien le travail du GIEC de faire la synthèse de tous les articles, de faire un vrai travail de review pour comprendre exactement. Et donc, le GIEC dit, c'est ça, le truc. Et ils ajoutent que, quand même, potential increase dans le likelihood avant 2300. D'accord ? Donc ça veut dire qu'ils sont un peu précautionneux. Donc ils ont identifié le collapse de la MOC comme un high impact, low likelihood event. À l'heure actuelle, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais ça veut dire qu'il faut quand même se considérer que c'est un événement extrême très très peu probable, mais par contre on en parle quand même parce que les impacts sont tels qu'il faut en parler. Ça va ? Je crois que je vous ai mis une dernière slide pour vous raconter ce que je fais moi dans tout ça, plus précisément, mais je vais juste aller très très vite, et c'est plutôt à développer dans les questions après. Mon obsession maintenant, c'est les incertitudes des projections climatiques. Vous l'aurez compris. Là, j'ai fait un webinaire pour le PEPR Climat, qui s'appelle TRAX, sur la calibration des modèles. Et sur tout ce qui ne va pas dans la manière de le faire et tous les efforts qu'on doit faire pour quantifier les incertitudes des modèles de climat et les incertitudes des projections du futur. C'est assez complexe de transmettre ça à des gens qui ne sont pas des climatologues. Déjà, il faut le faire entre climatologues. Et ensuite, il faut se poser la question de comment on déroule ça pour les questions sociétales qui nous sont posées par rapport au changement climatique, à l'adaptation, à l'atténuation. Ce n'est pas simple du tout, et je serais ravie d'en reparler avec vous. Et vous avez un GIEC normand qui est super bien positionné pour vous aider à en discuter. Mais donc, moi, mon truc maintenant, c'est ces incertitudes. Comment déjà être sûr qu'on les a bien identifiées? Comment éventuellement les quantifier? Les réduire, il faut être honnête, on n'y arrivera pas. Par contre, on peut se poser la question d'en sortir quand même une information. Okay ? Corriger des projections du futur, ce n'est pas possible, de manière épistémologique. On ne sait pas ce que ça va être le climat futur. Donc on ne peut pas corriger une projection du futur. Par contre, si déjà on peut quantifier les incertitudes et en faire quelque chose, et ah oui, ce serait bien au passage que ça ne coûte pas trop de carbone. Parce que ce serait quand même gros que, sous couvert de mieux quantifier les incertitudes de la MOC, on contribue à faire du réchauffement climatique. D'accord ? Quantification d'incertitudes, c'est un truc de maths qui, si on n'a pas un modèle qui est bien adapté, qui est différenciable, on est obligé de faire plein d'expériences. Donc, utiliser plein d'énergie. C'est pour ça qu'en ce moment, je me tourne vers une hybridation des modèles, avec une partie résolue dans des équations et une partie apprise. Et mon intérêt pour l'IA, il est là, il est fort, c'est vraiment la révolution, mais ce n'est pas l'IA dont tout le monde nous parle. Moi, c'est l'IA frugale et dédiée. Frugale parce qu'elle me permet d'atteindre mes objectifs de sobriété, et dédiée parce que je ne vais pas juste me servir d'un LLM de ChatGPT pour écrire mes articles, mais juste me servir de ce dont j'ai besoin et créer moi-même mes propres IA pour atteindre mes objectifs scientifiques. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Alors, le Gulf Stream, un courant océanique généré par des vents, sous l'influence de la rotation de la Terre, et les fluctuations qui sont liées aux conditions atmosphériques. Donc oui, c'est vrai que le Gulf Stream a un impact sur le climat breton, mais pas parce qu'il arrive aux côtes, parce qu'il fait partie de tout le système qui gère le climat et la météo sur l'Europe. Il contribue à la MOC, combinaison des courants marins qui influencent le climat à la redistribution de chaleur. Ça, c'est vraiment le moteur de l'océan pour la machine climatique. Les projections climatiques futures prévoient une diminution de la MOC, dont les impacts attendus sont forts et nombreux et s'ajoutent aux conséquences directes du changement climatique. C'est ce que j'appelle la catastrophe dans la catastrophe. Il y a un article dans Le Monde qui est sorti juste en début d'année. Audrey Garry qui a fait un super boulot de synthèse parce que c'est moi qui parle ici, j'ai d'autres collègues qui parlent différemment de la MOC, qui disent les choses différemment. Il y a des éminents climatologues qui disent que la bascule, elle est imminente. Voilà, c'est leur responsabilité. Audrey a conclu en disant, en fait, on s'en fout si ça bascule ou pas, parce que de toute façon, c'est la catastrophe dans la catastrophe. Et je trouve ça très bien, en fait, de juste retenir que, voilà, déjà, les scénarios du futur sont pas gays, mais si la MOC s'effondre, c'est encore pire. Donc, surtout, le plus on peut atténuer maintenant, il faut le faire. Voilà, et le risque aussi, si on franchit un point de bascule, c'est le côté irréversibilité de ces modifications. Si vous croyez encore que, en fait, on allait tous se convaincre de s'emparer de cette transition environnementale et revenir au climat d'avant, eh ben, c'est déjà mort, en fait. On a déjà franchi ces points d'irréversibilité. Les points de bascule, c'est un formalisme de ça. Mais l'état de la recherche actuelle sur les points de bascule, c'est d'établir lesquels ont déjà été franchis. Autrement dit, c'est déjà irréversible. Alors, pour ne pas vous laisser sur cette petite conclusion un peu déprimante, je vais vous raconter comment moi j'arrive à garder le sourire. Donc moi je suis chercheuse et je m'efforce de partager mon expertise, c'est ce que je fais ici, aussi parce qu'il y a une dimension transdisciplinaire très forte dans tout ce que je fais. Et donc c'est de ma responsabilité, je le fais sur mon temps de travail et j'assume que je n'ai pas posé un jour de congé pour venir vous parler. Ça fait partie de ma fiche de poste et de mon métier. Mais surtout j'essaie de cultiver ma passion pour la recherche. Parce qu'en fait c'est comme ça qu'on peut transmettre les choses, je pense, et entretenir la motivation de mes collaborateurs. C'est pas facile d'être climatologue tous les jours. Je ne vous le cache pas. Ce n'est pas facile. Peut-être aussi, on peut se dire que oui, mais Julie, elle va parler dans les médias, elle fait des trucs avec des youtubeurs. Moi, je suis juste ingénieur, je fais tourner la machine et franchement, à quoi ça sert? Bah ouais, c'est vrai. À quoi ça sert? On se pose tout le temps la question. À quoi ça sert de faire de la modélisation du climat? Je serais ravie de répondre à la question si vous me la posez. Et évidemment que j'essaye de limiter le coût carbone de mes activités. Évidemment. Ce n'est pas évident pour tous les climatologues. Pour moi, c'est tellement évident que je le redis. Et j'encourage tous les gens à se rendre compte que l'appropriation de la transition, la trajectoire, diminution de 50% de bilan carbone pour être carbone neutre en 2050. Il ne faut pas attendre que les autres bougent. C'est chacun, c'est chaque élément du système global qui doit faire sa part du job. Et donc, je suis aussi citoyenne. Et donc, je m'efforce aussi de réduire mon bilan carbone, de ne pas prendre l'avion, dans mon logement, dans mes achats, dans ma nourriture. Le deuxième point, il est important, pas juger les autres. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais peut-être plus, Anne-Claire, tu me connaissais plus jeune, peut-être que j'étais trop dans le jugement parce que je ne comprenais pas, parce que j'étais en colère, parce que je ne voyais pas pourquoi les gens ils se permettaient de me raconter leurs vacances à l'autre bout de la planète où ils ont pris l'avion pour 3 jours. Mais c'est indécent. Ouais, j'arrête de juger. Je crois que ça ne sert à rien. Peut-être parce que justement, j'ai décliné tout le reste et que maintenant, je suis bien dans mes baskets, je suis ravie d'être climatologue, je suis passionnée par mon métier et pourtant, je vous ai raconté toutes ces horribles choses. Et bien, en fait, je ne juge pas. Je crois que chacun s'approprie ces mauvaises nouvelles à sa façon, à sa manière. Et je ne crois pas que juger et pointer du doigt, ça aide. À l'inverse, expliquer les enjeux environnementaux à mes filles, j'ai des enfants, c'est des gens qui me disent souvent, bah, du coup, madame, vous n'avez pas d'enfants. Bah si, j'ai des filles, et elles ont la pêche, elles me font suer à chaque fois que je dis que peut-être maman va prendre l'avion pour aller à New York. Bah ouais, c'est cool, c'est chouette. Évidemment, je me réjouis avec elles du présent, parce qu'à chaque fois, il y a un petit, ah tiens, est-ce qu'il y aura des cerises l'année prochaine? Ah, pas sûr. Ah tiens, est-ce qu'il y aura du ski l'année prochaine? Ah, bah, de toute façon, on n'y va pas, maman, ça ne nous intéresse pas. Ah, bah c'est cool. Voilà, ça se résume à ça, les discussions de la famille. Donc, je vais m'arrêter là et je serai ravie de prendre vos questions si vous en avez. Bah, soyez pas timide. Alors, on va faire ouais, les jeunes en premier, d'accord ? Pardon, on va faire un truc pas du tout démocratique. Les moins de 30 ans en premier.
Ouais. Sur les analyses, sur quoi vous basez sur l'anomalie de hauteur d'eau un peu ou et d'autres données aussi?
Non. Je fais très peu de travail sur les observations directes. Oui, les hauteurs d'eau, mais décliner exactement la structure verticale des courants à partir de hauteurs d'eau, c'est très très complexe, on ne sait pas.
Est-ce que ça ne sert pas à voir en profondeur?
Exactement. Exactement. Pour aller en profondeur, il faut avoir des courantomètres et tu en as très peu et c'est très cher. Tout mon travail à moi, il est fait sur des modèles. C'est comme des Minecraft, où je reproduis, c'est pas moi seul, hein, mais on reproduit tout le fonctionnement de tous les océans, et on travaille sur ça. Et il y a quelques éléments, comme il ressemble vraiment à un océan virtuel, je peux comparer sur certaines features émergentes, je sais pas comment dire en français, patterns qui vont être visibles, là je peux comparer par rapport à ce qu'il y a dans les observations. Mais c'est très minime. Les observations qu'on prend aussi de l'océan actuel, on est d'accord qu'elles sont en train de voir le changement climatique. Donc elles sont déjà en train de voir un problème qui est non stationnaire. Mon modèle, à la base, il est stationnaire, et après, je l'emmène dans le changement climatique. Je n'ai pas d'observation du climat stationnaire. Personne n'en a. Tu vois la difficulté? Donc l'IA directe, ça ne marche pas. On ne peut pas. Et l'IA, elle mangerait des données. Alors oui, on a plein de données par satellite. Hein. C'est ce que des gens essaient de faire. C'est très bien pour faire de la prévision à court terme. Où sont les tourbillons, etc., etc. Il y a des applications sociétales qui sont super importantes pour ça, et je les respecte tout à fait. Ce n'est pas mon corpus disciplinaire, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que précisément dans l'océan, on observe très peu. Et moi, mon truc, c'est les courants profonds, et là, il n'y a vraiment pas grand-chose pour les observer.
Parce que les courants profonds, c'est plus à long terme, du coup.
Ouais. Okay.
Moi, c'était...
Tu pourrais continuer en me disant, oui, mais du coup, vous avez confiance comment dans ce que vous faites?
Oui, voilà.
Ouais. Ouais. Bah, c'est ce que je fais, hein. Je quantifie les incertitudes. C'est tout ce que je fais maintenant. Parce qu'il faut être réaliste. Et du coup, l'enjeu de sobriété, il est double. C'est que je vois bien que je fais un truc par rapport à la société qui est important, parce que c'est ça qui est vraiment le point clé pour anticiper une accélération brutale du changement climatique. Et donc, on a quand même envie de prévenir les sociétés. Mais c'est quand même un truc de riche qui joue dans un bac à sable. Donc, si en plus, je crame du carbone pour faire ça, alors qu'il serait plus utile ailleurs. Hein. Donc, j'assume. Je ne peux pas vérifier ce que je fais, mais au moins je le fais à bas carbone.
Ok, c'est respectable.
Je t'en remercie. D'autres questions pour les moins de 30 ans? Après, on ouvre toute catégorie. Ah oui, super.
Est-ce qu'on prend en compte, par exemple, des grosses éruptions volcaniques, de supervolcans,
ouais,
qui peuvent refroidir ouais, la température globale et un peu retarder ce recul d'arrêt
ouais,
de la NOC? Est-ce que c'est pris en compte dans les modèles de...
Oui.
Comme ça,
Alors, oui, c'est pris en compte dans les modèles du passé. Dans le futur, c'est la question. Précisément, la prédictibilité des éruptions volcaniques massives, elle est assez limitée. Donc, on joue, par exemple, il y a plusieurs scénarios pour une même quantité d'aérosols d'origine volcanique dans l'atmosphère. On va faire deux scénarios. Un où c'est plein de petites éruptions et un autre où c'est une grosse et des petites. Et on fait les deux pour comparer les différences. Et il y a des différences qui émergent. Donc oui, on fait ça. Et on se sert surtout des expériences du passé, là où on a beaucoup d'observations dans l'atmosphère, pour évaluer la performance de nos modèles à tenir compte des rétroactions. Malheureusement, les rétroactions négatives, comme tu dis, refroidissement, ça dure très court, en fait. En général, c'est de quelques années. Même les très, très massives, c'est quelques années. Et après, souvent, tu as une surcompensation. Et tu repars, et c'est comme si tu avais repris ta trajectoire initiale. Tu vois, c'est pas quelques années et je repars en dessous, c'est quelques années et je remonte là où j'étais. C'est ça, le truc pas cool. Ouais. Mais on aurait bien aimé. Hein. Ouais.
Moi, je me demandais, je suis complètement néophyte sur le sujet, mais qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des jumeaux numériques? Par exemple, je pense au projet Mercator, dont on n'a pas entendu parler. Et genre...
Alors, on va pas couper la caméra, parce qu'il y a déjà des traces sur YouTube. Je suis très en colère contre les jumeaux numériques. Parce que... et donc, sur YouTube, typiquement, il y a des vidéos où je suis avec quelqu'un de Mercator qui me dit « Mais Julie, quand même, pour prédire l'évolution de l'infrastructure du port de La Rochelle, c'est pas avec ton modèle à un degré de résolution qu'on va le faire. » Et je lui réponds « Mais Yann, quand même, à quoi ça sert de prévoir ton infrastructure avec l'état des vagues dans le port à l'heure actuelle? Est-ce que tu as confiance que ce sera ça aussi dans 70 ans ?» Et voilà, tout est dit. Donc la conclusion, c'est qu'il faut travailler ensemble. Et moi, c'est ce que j'ai travaillé beaucoup avec Mercator, je les connais tous, c'est vraiment des copains. Mais non, le bullshit de « un jumeau numérique va réussir à servir toutes les applications », non. Non, non, non. Le jumeau numérique, c'est super pour la sécurité nationale, search and rescue, les écosystèmes dans leur gestion quotidienne très court-termiste, ça, c'est parfait. Mais qu'on ne dise pas que la recherche sur les océans et l'intérêt sociétal se résument à ça. Les jumeaux numériques n'en ont rien à faire du climat. OK ? Et ce n'est pas le bon outil pour le faire. Donc moi, ce que je prends derrière, et tu retrouveras ça dans d'autres vidéos, c'est qu'en fait, il faut qu'on ait une hiérarchie de modèles. Et dans cette hiérarchie de modèles, il y a à un moment les jumeaux numériques, mais il y a plein d'autres choses. Là, le gros risque, quand même, le point de bascule dont je n'ai pas parlé, c'est les ruptures des calottes continentales. Ce n'est pas ton jumeau numérique qui va faire ça. Et le jumeau numérique pour faire le port de La Rochelle, si tu n'as pas exactement une idée de l'augmentation au niveau de la mer globale, j'y crois pas. Bah voilà. Donc à la fin, c'est moi qui gagne, parce qu'ils n'ont pas d'argument. Mais je comprends qu'il y a des enjeux politiques, et Macron a annoncé les jumeaux numériques. Et du coup, ils reviennent à chaque fois. Et le soir même, j'étais sur... France TV Info, France Info, à dire arrêtez, arrêtez ces conneries. Donc le CNRS a rétropédalé. Il dit non, non, ok. Julie, elle a râlé. Maintenant, on parle de l'océan numérique. Je dis bah ouais, ok. Bah là, je suis d'accord. Mais de temps en temps, l'Elysée ressort le jumeau numérique. Là, c'est arrivé cette semaine. Oh, j'ai pété un câble. Tout de suite, je dis oh non, putain. Non, Julie, c'est bon. Voilà. De rien. Mais si tu vas aller bosser chez Mercator, vas-y, hein, ils sont super. Ben c'est ça. Donc, typiquement, on est dans un séminaire organisé par le GANIL. Les jumeaux numériques, pour tout ce qui est industriel, c'est génial. C'est la bonne idée. C'est ça qui permet aussi d'être sobre dans les expérimentations. Mais comment penser à ça sur un truc qui est transitoire? D'accord? Okay? L'océan, le changement climatique, il est là, en fait. On a pu le démontrer. Et ensuite, dans un truc, c'est là où j'ai mes limites par rapport aux applications dans d'autres sphères industrielles. Mais l'océan, je peux vous refaire la conférence d'une heure sur tous les transferts d'échelle, de grande échelle à petite échelle et de petite échelle à grande échelle. Et à partir du moment où tu dois couper ton spectre là, des transferts d'énergie entre une grande et une petite, forcément, il y a des flux d'énergie que tu ne vas pas avoir. Donc je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Mais c'est comme le premier... Villani qui avait fait son rapport pour dire que l'IA, c'est parfait pour le changement du climat. Et quand j'ai dit au type, mais attendez, comment vous allez faire de l'IA sur des données transitoires? Enfin, je veux dire, vous ne pouvez pas apprendre le climat du futur, il ne s'est pas arrivé, et puis il est quand même en train de changer le climat. Et là, il m'a dit, comment ça se fait que mes experts m'en ont pas parlé? Bon, on va peut-être changer d'expert. D'autres questions? Bon, on peut ouvrir à tout le monde, oui. C'est bon.
Sur les méandres que on a vues, vous avez expliqué qu'elles sont mesurées par les hauteurs d'eau, elles sont aussi sur des modèles de prévision météo grand public, comme Windy par exemple, on les voit de façon très précise, aussi précise que la photo, que l'image satellite que vous nous avez montrée. Et est-ce que c'est vraiment si précis que ce qu'on voit, c'est-à-dire on voit une évolution à quelques jours de chaque méandre?
Ouais. Oui, oui, je crois que oui. Après, il faut faire. Alors, je me positionne dans votre échelle spatio-temporelle. Et j'allais dire, attention à ce qu'on regarde comme visuel. Parce que vous savez, la technique de regarder des images de basse résolution, okay, parce que c'est vraiment ça l'échelle de l'information qui a été produite. Mais quand même, on n'aime pas regarder des pixels, et donc regarder quelque chose qui a été interpolé, qui a été lissé, c'est plus agréable. Oui, mais si au moment de faire l'image complète, on a introduit de l'information qui n'était pas au départ, et que cette information s'avère pertinente, CF, ce que tu montrais tout à l'heure, alors oui, on peut avoir confiance, même à petite échelle. Et les techniques d'IA font ça très bien. Et on peut vraiment avoir confiance sur ça, et ça nous permet d'aller plus vite, à moindre coût. C'est super. Oui, mais est-ce qu'on est bien sûr d'avoir introduit toutes les informations de petite échelle pour faire ce smoothing? Typiquement, je vais faire un petit pas de côté. En ce moment, il y a une révolution dans les prévisions météorologiques parce que c'est l'IA qui est en train de gagner par rapport à la résolution du système. Ça, le game, il est fait, il est plié. Sauf que, quand ils veulent prévoir beaucoup dans le temps, passer 5, 6, 7 jours, les modèles plantent. Pour que les modèles ne plantent pas, il faut accepter que les modèles soient lissés. Et du coup, quand on regarde les prévisions, on a du blur et on n'a pas des petites trajectoires fines. Il n'y a que quelques-uns des modèles, en ce moment c'est Google qui a le meilleur, qui réussissent à la fois à prédire dans le temps, avec de la finesse et avec un truc qui ne crache pas, qui est à peu près stable. Donc, j'en reviens à votre image quand vous regardez. Ben, en fait, c'est son esprit critique et c'est justement cette mesure des incertitudes qui doit parler.
On les voit sur les cartes qu'on voit.
Non, ah non, ça je suis d'accord. C'est pas sur les cartes. Par contre, donc se rendre compte que par exemple la structure circulaire d'un tourbillon, c'est à peu près bien établi. Parce que la turbulence dans les océans, c'est comme dans l'atmosphère, c'est un truc qui est isotrope. Et donc oui, c'est jamais une forme de patate allongée, c'est toujours une forme de cercle. Okay. Après, il y a de la dynamique côtière qui fait que du coup, peut y avoir un impact. Si on est suffisamment au large, voilà. Mais là, ça va dépendre de la stratification. C'est incertain. Je peux dire ça comme ça? D'autres questions? D'autres commentaires?
Moi j'en ai une. On a beaucoup parlé de l'Atlantique, parce qu'évidemment on est européen. Mm. Est-ce qu'il y a des choses similaires en Pacifique, avec des risques similaires? Est-ce qu'il y a des discussions?
Pas du tout.
Donc, ouais.
Alors pas du tout, parce que il y a la MOC. Et en fait, donc, c'est un petit jeu, souvent les journalistes me disent « Vous voulez parler de la MOC ?» Je dis « Laquelle ?» La L'A-MOC ou la, plus loin, MOC. Et en fait, MOC, c'est la structure globale, et AMOC, c'est sa sous-partie dans l'Atlantique. Mais il n'y a pas de PMOC, il n'y a pas de MOC dans le Pacifique. Dans le Pacifique, c'est exactement l'inverse. Il y a des raisons pour lesquelles on ne forme pas d'eau dense dans le Pacifique Nord, mais pas du tout. Alors, il y a des expériences qui sont intéressantes, qui explorent dans le climat du passé, si parfois ça avait été renversé. Mais c'est rarement une renverse par rapport au Pacifique, c'est plutôt une renverse par rapport à l'océan Austral. Il y a aussi une MOC, une cellule d'overturning, qui est vraiment qui tapisse le fond des océans, avec des sites de formation d'eau dense qui sont dans la mer de Weddell et dans la mer de Ross. Et là, c'est en effet un overturning qui est connecté avec celui dont je vous ai parlé, mais on ne comprend pas bien comment. Et le dernier article récent de Baker qui dit, avec un modèle plutôt réaliste, qu'en fait la MOC ne va pas s'effondrer, c'est parce que c'est la MOC de l'océan Austral qui prend le relais et qui fait qu'elle reste à une intensité assez forte. Donc non, dans le Pacifique, c'est une autre histoire, c'est finalement beaucoup plus basique, l'océan est plus stratifié, et on est plutôt sur des modes d'interaction océan-atmosphère. Alors par contre, El Niño, c'est fascinant, mais ça, c'est sur le subtropique. Au moyen de latitude, il n'y a pas grand-chose. Par contre, oui, autour de l'océan Austral, il y a des trucs qui sont aussi super intéressants, parce que aussi on amène un autre gros acteur qui est la cryosphère, la calotte continentale et les interactions entre l'océan et la calotte. Oh, ça, je pourrais vous en reparler. Les cavités sous-glaciaires, c'est un truc de dingue. Comment l'océan va venir sous la calotte et va faire des. Et pas seulement la faire fondre, mais la faire reglacer, en fait. On a des patterns dans le fond des cavités où, en fait, l'océan arrive, et certes, quand c'est chaud, ça fait fondre, mais aussi avec des changements dans l'équation d'état et de la sursaturation en sel, et bien, il arrive à faire figer de l'eau et réépaissir la calotte dans le fond des cavités. D'autres questions?
Ouais. Oui, si on réfléchit au cas peu probable de l'effondrement et du passage du point de glace, ouais. Est-ce qu'on a une idée de la temporalité de la restabilisation vers le deuxième point d'équilibre?
Ouais, la chute.
C'est quoi, c'est des décennies?
Ouais, des décennies.
Quelques décennies.
Moi, 50 ans à la louche, mais c'est compliqué à dire. C'est 50 ans à la louche. Là, dans le webinaire que je montrais, ils montrent des collapses qui reviennent après. Et la collapse se fait progressivement. Et en fait, il y a un point, et donc, ouais, c'est 50 ans l'échelle de temps élémentaire. Ce qui est rapide, hein. Ouais, ce qui est rapide. De rien. Ouais.
Est-ce qu'il y a encore un peu des sous pour aller relever les balises et en mettre?
Il y a un peu des sous. Il y a oui et non. Si je crois bien, il y a un moratoire dans un an ou deux sur les nouvelles campagnes, sur les gros bateaux, parce qu'il y a des problèmes de cumulation de campagnes qui n'ont pas été faites, etc. Donc oui, il y a des petites questions. Il y a surtout des grosses questions sur l'empreinte carbone des observations et de la flotte. Et donc, il y a des grosses pressions pour changer les gros navires pour des voiliers ou des nouveaux navires qui, en fait, seraient moins consommateurs de carbone. Et ça, par contre, ça prend du temps. A priori, il y a une volonté d'aller vers, mais il faut rentrer ça dans les budgets, etc. Et on a un président qui a annoncé il y a 2 ans l'arrivée d'un nouveau bateau. Alors, à chaque fois, je l'appelle le Raymond Barre, mais ce n'est pas du tout Raymond Barre, mais c'est un homme politique de la même génération. Et bref, celui-là, la communauté n'en veut pas du tout. Et donc, là, tout de suite, il y a une petite tension. Un gros bateau hauturier. Ouais. Qui est arrivé comme ça de l'Elysée. Ping. Et qui n'a aucune propriété intéressante en termes de carbone. Et en plus, qui va faire des allers-retours entre l'Équateur et l'Austral. Parce qu'il va former plus... Enfin, voilà. Bref. Non, c'est pas cool, la flotte, en ce moment. De ce que je comprends.
Il faut vraiment relever les balises ou faire une lecture à courte distance, être à courte distance pour faire une lecture.
Alors, à 5000 mètres de fond, c'est pas courte distance. Donc, il faut vraiment relever la balise. Il faut vraiment... Donc, le mouillage, on le met à l'eau du bateau. C'est en fait une ligne, un câble qui est instrumenté avec une ancre au fond, un poids lourd. Et entre la ligne et l'ancre, il y a un largeur acoustique. Et donc quand on arrive sur place, hop, on le met dans l'eau, il tombe au fond. Et quand on revient, on espère que le largeur acoustique va marcher. Souvent, il y en a toujours 2. Et ça relargue, il y a une tête de flottabilité, ça remonte en surface. Et là, on vient le grapper et on peut le remonter à bord. Et là, on peut décortiquer les informations qui ont été collectées pendant tout le temps où il était en mer. Donc, en pratique, on vient le faire pas sur un, mais en fait, à bord, on a toujours une ligne de mouillage qui est prête. Et donc, en même temps qu'on a relevé, on remet l'autre à l'eau. Et puis, on nettoie les instruments, on change les batteries, on calibre, etc. Le temps d'aller sur site à un deuxième. Et là, il y en a une nouvelle qui est prête. Hop, on remonte, on redescend, etc. etc. Ah, c'est vraiment l'intervention physique. Tous les ans, les Anglais, ils sont là, sur la radiale. Tous les ans, début décembre, si vous voulez embarquer... Demandez-leur. Et donc moi, là, j'embarque avec l'Ifremer une campagne de Damien Dribouillère qui s'appelle Crossroads. Et on embarque mi-septembre pour 3 mois. On va relever, changer comme ça 12 mouillages.
12 en 3 mois ?
Pardon, non, j'ai dit 3 mois. 3 semaines, 21 jours de mer. 12 mouillages en 3 semaines. Et en plus, il y a plein d'autres mesures. Ouais.
Et c'est mesuré sur toute la profondeur, tous les mètres ou...
Non. C'est des profileurs qui sont des profileurs. Alors, il y a plusieurs types. L'océan répond à une propriété qui s'appelle la géostrophie assez bien. Au premier ordre, les courants sont géostrophiques et du coup, des gradients de densité peuvent nous permettre d'estimer les courants. Donc, en fait, juste des capteurs température salinité peuvent suffire. Mais il faut toujours à un moment une référence. Et cette référence, elle doit être instrumentée par un courantomètre. Et ce courantomètre, c'est souvent une technique qui est ADCP, Acoustic Doppler Shift Current Meter. Au current profiler. Et là, en fonction de la gamme de fréquences qu'on a réglée, on va avoir une portée plus ou moins longue. C'est toujours de l'acoustique avec une réflexion sur les petites particules dans l'eau. Et donc, quand on est en profondeur et que potentiellement on a de l'eau qui est peu pauvre en particules, on n'a pas envie d'aller chercher une portée trop longue parce qu'on risque d'avoir des données qui sont très bruitées. Donc, on va plutôt avoir une portée qui est limitée. Ouais.
Je reviens à l'Atlantique.
Ouais.
Le sujet. J'ai vu, parce que je crois que c'est par autour de l'Islande où l'océan a plutôt tendance à se refroidir.
Ouais.
La tendance est à un réchauffement de l'océan.
Ouais.
Il y a une zone.
Le cold blob.
Voilà.
Ouais.
Il relie ça à la baisse de la mort.
Ouais.
Et donc c'est vraiment lié ou c'est une légende?
Non, c'est pas une légende. Ramstorff, il n'est pas bête quand même.
Oui, c'est ça.
Il n'est pas bête,
il a
mais.
Il a un discours assez alarmiste. C'est donc...
Ouais. Ben, en fait, il a un discours assez alarmiste comme moi. Mais il n'a pas peur de... Enfin, pour moi, il laisse quand même suggérer qu'on va vers un refroidissement Alors que, pour moi, il est nulle part, et ce n'est pas que moi qui dis ça. Et ce cold blob, donc je n'arrête pas d'essayer d'être à jour dans la biblio, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent dessus, en vérité. Et il faut vraiment, pour moi, le voir comme, en effet, une anomalie, un hiatus, mais qui est juste la signature du fait que c'est complexe, le réchauffement des océans, parce qu'à l'inverse de l'atmosphère où juste ça se réchauffe, il y a peu d'endroits dans l'atmosphère où ça se refroidit. Dans l'océan, il y a plein d'endroits où ça se refroidit, en fait. Au gré des restructurations de tous ces bols, toutes ces masses d'eau. Et donc, pour moi, le cold blob, il ne me fait pas peur. C'est une intensification de la gyre subpolaire, et c'est juste le cœur de la gyre subpolaire qui est plus visible. C'est tout. Et ce n'est pas grave, et ça ne contredit pas tout le reste. Par contre, la concomitance avec la MOC, qui dit c'est lié avec une diminution de la MOC, mais ça, je ne crois pas, parce qu'en fait, dans les mesures de la MOC récentes, elle est en train de remonter depuis 2015. Donc, en fait, ça ne colle pas. Et après, si on dit oui, mais c'est du transitoire, regarde la formation d'eau dense. Ben, je suis désolée, la formation d'eau dense, elle est toujours très forte. Et depuis 2013, 14, 15, on avait 3 années de forte formation d'eau dense. Donc, en fait, il y a des éléments qui, tout de suite, ne collent pas. Et pour moi, ce cold blob, il fait partie de cette discussion. Alors, attention à ne pas confondre avec... C'est là où Rammstorff, parfois, il est confus dans son discours. Donc, les modèles de climat ne savent pas faire le Gulf Stream. Ils sont nuls à ça, parce que c'est un courant de limite, de couche limite, donc c'est un courant très, très faible. Résultat, là où, dans la vraie vie, on a du chaud qui arrive au large des grands bancs, là, on doit avoir plutôt des anomalies chaudes dans l'océan, les modèles ne font pas ça. Il fait froid. Résultat, on a un cold bias dans les modèles qui font qu'ils sont froids là où il devrait y avoir des eaux subtropicales. Et ça est appelé, dans le jargon des modélateurs, le blue spot of death. Parce que dans les cartes, une anomalie froide, c'est bleu. Et c'est le truc qui nous fait suer parce qu'il est toujours là, on n'en peut plus, ça fait 25 ans. Voilà. Et le blue spot of death, il est juste à côté du cold blob. Et moi, ça m'interpelle, ça. Parce que, du coup, oui, il y a une vérité. Quand Rammstorff dit « oui, mais les modèles de climat sont faux », c'est vrai, il a raison, ils sont faux. Ils ont ce blue spot qui est là. Du coup, la confiance dans ces modèles-là à faire le cold blob et expliquer le mécanisme, sachant qu'ils ont le blue spot à côté, moi, on n'est pas très confortable. Il a raison, c'est vrai. Mais par contre, de là à tout de suite dire de façon déterministe « c'est l'arrêt de la MOC, c'est la preuve que », non, je ne suis pas d'accord. C'est la preuve qu'il faut être un peu fin et utiliser toute une myriade d'outils pour essayer de comprendre, et tout de suite, on ne comprend pas. Oui, là, je signe. Mais je ne signe pas à dire ça, c'est l'arrêt de la MOC. Je ne suis pas d'accord. Et je crois que je ne suis pas la seule. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est controversé. Lui-même est controversé. Mais il est financé par des donations. Il est lui-même payé. Il travaille dans un institut qui est payé parce qu'il reçoit des financements de projets européens, de donateurs, etc. Donc, il a besoin d'être présent sur la scène médiatique. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, la confusion entre MOC et Gulf Stream, c'est lui qui l'a instillée, au départ. C'est important de savoir d'où on parle. Ouais.
À propos des paléos, de la paléoclimatologie,
ouais.
On a beaucoup de collègues qui font de la paléoclimatologie, qui essaient de limiter sur plusieurs centaines de millions d'années, voire des millions, plusieurs dizaines de millions d'années, donc au travers d'une reconstitution dans des archives sédimentaires, donc, et de pouvoir reconstituer l'impact du climat, etc. Est-ce que de ces informations, vous pouvez en tirer quelque chose pour vos modèles ?
Oui, énormément. C'est difficile parce qu'il faut pouvoir intégrer les modèles très longtemps. Mais oui, ça fait partie des sujets que je traite dans le cadre de TRAX. Très concrètement...
Sur le temps, la chronologie
Non. Sur la capacité de représenter des climats différents. En fait, récemment, c'est une étude que j'ai faite avec une étudiante en master. On avait fait cette histoire de calibration nouvelle façon. Donc semi-automatique sur un modèle de climat de l'actuel. Et on s'est dit, est-ce que je peux aussi calibrer sur la dernière phase de climat chaud, donc au Miocène? Et la réponse était non. Et ça, ça pose un problème. Et surtout, pour moi, la confiance sur l'émergence de points de bascule dans le modèle, si on n'est pas capable, avec le même modèle, de faire des transitions d'un climat à l'autre, alors moi, j'y crois pas. C'est ça la critique de Rammstorff par rapport au modèle CEMIP, qui sont dans le dernier rapport du GIEC, c'est qu'aucun de ces modèles n'est capable de faire des transitions glaciaires-interglaciaires. Donc il dit, si par construction ces modèles ne sont pas capables de faire des points de bascule, c'est normal qu'ils n'en fassent pas dans le futur. Et sur ça, il a raison. C'est pour ça que moi, dans le fait de rajouter de l'IA, c'est pour finalement avoir plus confiance dans la stabilité, l'origine de la stabilité de mes modèles. Ça peut paraître contradictoire, mais en fait, pour moi, il faut qu'on change le paradigme, la façon de faire nos modèles. Tout de suite, à l'heure actuelle, on a des modèles où, quand il y a une explosion numérique, ça pète, comme on dit, Et bah hop, on réduit un peu le pas de temps, comme ça, ça se passe mieux. On bat un peu de viscosité. Sur des modèles de paléo, bon, bah, on va être un peu plus gentil. Sur une constance solaire, sur ci, sur ça. On fait des petits arrangements. Mais okay, c'est peut-être OK pour étudier des processus. Mais est-ce que c'est OK pour ensuite en déduire des comportements de type changement de régime? Je pense que non. C'est ce que moi, je mets sur la table tout de suite. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on revoie le paradigme de la façon de faire nos modèles. Et c'est pour ça que je suis aussi, toutes ces théories qui viennent de modèles statistiques sur les points de bascule de la MOOC, je les lis, ça m'intéresse vraiment. Parce que c'est bien d'avoir ces autres inputs. Par contre, il ne faut pas dire que c'est plus réaliste qu'un modèle du GIEC, c'est pas vrai. Mais voilà, c'est là où il faut l'incorporer pour moi dans le corpus de la controverse entre les scientifiques. Et d'ailleurs, les derniers papiers paléo disent que la MOOC ne se serait jamais arrêtée, en fait. Ça, c'est super intéressant. Ouais. Qu'en fait, elle ne se serait jamais arrêtée. Que c'est juste la branche profonde qui passe à une profondeur différente, avec une densité différente, mais que mécaniquement, le courant serait toujours là. Et alors là, là il faut tout revoir. Hein. Ouais. Voilà.